Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire. Să luăm aminte, în vremea aceea Iisus a văzut mulțimea de oameni și s-a făcut milă de dânsii și a tămăduit pe toți bolnavilor. Iar când s-a făcut seară, s-au apropiat de dânsul ucenicii săi și i-au zis, locul acesta este pustiu și acum este târziu, deci dă drumul mulțimilor ca să se ducă în sate, să-și cumpere de mâncare. Iisus însă le-a răspuns, nu trebuie să se ducă, dați-le voi să mănânce. Dar apostolii i-au spus, Doamne, nu avem aici decât numai 5 pâini și 2 pești. Atunci el a zis, aduceți-le aici la mine. După aceea a poruncit oamenilor să șadă pe iarbă și luând cele 5 pâini și cei 2 pești și-a ridicat ochii spre cer. A binecuvântat și frângând a dat ucenicilor pâinile, iar ucenicii mulțimilor și au mâncat toți și s-au săturat și au strâns rămășițile de fărâmituri, 12 coșuri pline, iar cei care mâncaseră erau ca la 5.000 de bărbați, afară de femei și de copii. Îndată după aceea, Iisus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă înaintea lui pe țărmul celălalt, până ce el va da drumul mulțimilor.
Lecture du Saint Évangile selon Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus vit une grande foule et pris de compassion, il en guérit les infirmes. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent, « L'endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule pour qu'elle aille dans les villages acheter des provisions. » Mais Jésus leur dit, Ils n'ont pas besoin d'y aller, donnez-leur vous-même de quoi manger. Ils répondirent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Jésus leur dit, apportez-les-moi ici. Alors il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les pains et prit les 5 pains. Et les 2 poissons leva les yeux au ciel et dit la bénédiction. Puis, rompant les pains, il les donna aux disciples, qui les donnèrent à la foule. Tous mangèrent à satiété, et l'on remplit 12 corbeilles avec les morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5 000, sans compter les femmes et les enfants. Aussitôt après, il ordonna à ses disciples de remonter dans la barque et de le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait la foule.
Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vais parler en français pour éviter les traductions et pour ceux qui ne comprennent pas, je vais reprendre à la fin de la liturgie en roumain quelques idées. L'évangile d'aujourd'hui, c'est très clair, donc on nous présente un miracle qui a été fait par notre Seigneur et notre Dieu, Jésus-Christ. On l'appelle ce miracle la multiplication de pain. Vous avez entendu l'histoire, donc le Christ qui avait fait beaucoup de guérisons, beaucoup plus de guérisons que sont racontées dans l'évangile peut-être, et le soir venu, la foule qui était venue chercher le Christ se trouvait dans un sort de lieu très éloigné de tout village, et les apôtres s'inquiètent un peu pour la foule, en disant au Christ, fais quelque chose, envoie les gens pour qu'ils s'achètent de la nourriture et pour qu'ils fassent de la provision. Et le Christ dit non, laisse-les rester ici, et après il fait ce miracle de la multiplication de pain. Je ne veux pas trop entrer dans la philosophie des miracles, parce qu'un miracle, c'est un miracle et on ne peut pas trop l'expliquer. On peut seulement croire que Dieu peut actionner sur les lois de ce monde qui est son œuvre en fait, et qu'il peut faire des choses qui, pour nous, pour notre vision, sont incompréhensibles ou incompatibles avec notre vision sur ce monde. C'est un miracle, qu'est-ce qu'il a fait Jésus dans cette histoire. Mais on oublie que peut-être toute notre vie, c'est un miracle. On oublie parfois ça. On court après toutes sortes de miracles extérieurs et on oublie que notre existence même, c'est un miracle. Le fait d'avoir à nous-mêmes la grâce de Dieu reçue par le sacrement du baptême, c'est un miracle. Le fait d'avoir la grâce de Dieu en nous, c'est un miracle. On oublie beaucoup ça. Le fait de pouvoir avoir une relation directe avec notre Dieu, c'est un miracle. Et on oublie parfois ça. J'ai commencé à vous faire une petite explication du baptême. Et vous savez, en baptême, on appelle l'office du baptême taïne. On pourra dire en français mystère, n'a pas la même poids qu'en roumain. Le baptême, c'est une office qui est, on pourra dire, c'est un miracle. Parce que celui qui est baptisé, il devient un nouveau-né, un nouveau homme. Et parce qu'on vit dans un monde où le miracle, ou plutôt le mystère, n'existe plus, parce qu'on vit dans un monde où tout est prévisible, parce qu'on vit dans un monde où on a beaucoup d'assurances pour tous les risques, pour la voiture, pour le bâtiment, pour tout, on oublie qu'aucune assurance de ce monde ne nous garantit pas la vie, la vraie vie. On voit beaucoup de soi-disant miracles autour de nous et on oublie que le vrai miracle, la vraie merveille, et le vrai mystère, c'est dans notre relation avec Dieu. Par exemple, qu'est-ce qu'on fait dans le baptême? On prend l'enfant, nous, les parents, le prêtre, les parrains, on met l'enfant dans les mains de Dieu. Effectivement, on met l'enfant dans les mains de Dieu. C'est pas ça un miracle pour nous, pour vous? Pour moi, c'est un miracle. La naissance en soi-même, c'est un miracle. Le fait qu'un nouveau-né vienne dans ce monde, c'est un miracle. Mais en plus, le baptême qui est une naissance nouvelle pour le royaume de Dieu, c'est un miracle qui dépasse tous les miracles de ce monde. Et c'est un mystère aussi. Si on ne comprend pas le miracle que le Christ a fait aujourd'hui dans cet évangile, on ne peut pas aussi comprendre le mystère d'être chrétien. La grande grâce qu'on reçoit quand on est des chrétiens. Il faut se réveiller un peu, il faut revenir en arrière, comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec nous par le sacrement du baptême. Comment le mystère du baptême travaille en nous chaque jour. Comment est-ce qu'on peut découvrir de nouveau le mystère du baptême en nous. Et ici, je voudrais vous parler un peu sur la confession. Je ne sais pas si vous savez ou pas, la confession est nommée dans notre tradition un deuxième baptême. Parce que dans la confession aussi, on vient laisser à côté notre vieux homme et renaître. On est conscient de nos péchés. On est conscient que tout ce qu'on fait dans cette vie, parfois, est contre la volonté de Dieu. Et pour ça, on vient à la confession pour trouver des solutions. Bien sûr, il faut apprendre à se confesser. Et ici, je voudrais faire une petite partie pratique. Il y a deux dangers pour ceux qui viennent se confesser. Tout d'abord, il y a des gens qui viennent se confesser et qui disent « Voilà Père, je fais tous les péchés du monde contre tout le monde. » C'est un stéréotype qu'on le trouve parfois dans beaucoup de confessions. C'est pas une attitude très juste, parce qu'il faut chercher en nous-mêmes qu'est-ce que ça ne va pas. Et on vient devant le prêtre, pas en cherchant au prêtre la solution. C'est un autre risque qu'on fait quand on vient à la confession, de mettre le prêtre au lieu du Christ. De voir, avoir des solutions de la part du prêtre, au lieu de mettre toute notre confiance que la confession est faite par le prêtre devant le Christ. Et il y a aussi un autre risque, de la part du prêtre aussi, qui croit qu'en lui réside toujours la solution. Ce n'est pas vrai. Le prêtre, il travaille ensemble avec celui qui vient se confesser pour trouver une solution. Mais cette solution, ce n'est pas une solution humaine. Par exemple, le prêtre à la confession, il peut vous dire beaucoup de choses de lui-même. Mais ce qui compte, c'est que parfois, pas parfois, toujours, le prêtre et celui qui vient se confesser doit tout d'abord être conscient qu'il vient à la confession dans un état de prière. Il vient confesser des péchés et de trouver surtout, de trouver des solutions pour qu'est-ce qu'il peut accomplir comme il faut devant Dieu. La confession, ce n'est pas un jugement, si vous voulez. On ne vient pas dire nos péchés et recevoir des punitions pour ce qu'on a fait. Ce n'est pas du tout comme ça. La confession, c'est, comme je vous ai dit, c'est une recherche. Celui qui vient se confesser et le prêtre, ils cherchent ensemble, dans l'Esprit Saint, une solution pour que les choses avancent, pour que les choses prennent une autre perspective. Par exemple, la confession n'est pas une analyse psychologique. Ce n'est pas la psychologie pendant la confession. On peut tomber ça, on peut arriver à ça, mais toujours, il faut revenir en arrière, il faut être conscient qu'est-ce qu'on cherche à la confession. On raconte notre vie ou on raconte nos péchés. Ou on est très conscient de nos péchés, je répète, dans la perspective dans laquelle on cherche des solutions pour ceux qui ne savent pas. Parce que quand on dit que, voilà Père, je fais tous les péchés du monde, on n'est pas très conscient de ce qu'on a fait. Et le prêtre peut très bien demander, bon, vous avez fait de la crime? Non, je n'ai pas fait une crime. Mais vous avez fait quoi? Non, il n'y a pas de choses très importantes. Vous avez fait un avortement, par exemple? Ah oui, j'ai fait, mais comme tout le monde. Ah non, c'est un problème ici. Donc il faut, chacun d'entre ceux qui s'approchent de la confession, il faut voir très bien qu'est-ce qui ça va et qu'est-ce qui ça va pas dans sa vie. Parce que par exemple, il y a des gens qui viennent à la confession et qui n'ont pas à confesser un péché. Pourquoi le prêtre doit chercher à tout prix un péché à ceux qui viennent se confesser? Peut-être il n'a pas un chose à confesser, donc il faut le laisser. Il ne faut pas que le prêtre entre dans l'âme et il faut... Non. D'un côté, il faut le laisser. Et d'autre côté, celui qui vient, lui aussi, il doit être conscient qu'il n'est pas très pur. Il n'est pas pur. Il y a toujours des choses dans lesquelles on tombe. Il y a toujours des péchés. La Bible, il dit, mais même si l'homme, il vivrait un seul jour sur la terre, il aurait des péchés. Donc attention aux extrêmes. Attention aux extrêmes. Aussi, il faut faire attention pendant la confession de ne pas dire des péchés qui appartiennent aux autres. De ne pas essayer de guérir les autres. Laissez les autres venir eux-mêmes à la confession et concentrez-vous sur vous-même. Parce que parfois, je me souviens d'une parole de père Théophile, de Steve Motadessus, qui disait « Oh là là, je connais toute l'histoire de Fogueras, toute l'histoire de ville de Fogueras. » Parce qu'il y a des gens qui viennent raconter qu'est-ce que font les autres. Et c'est pas ça le but de la confession. C'est pas ça le but de la confession, d'apprendre des histoires. Voilà, j'ai garé ma voiture, j'ai sorti les clés de comme ça, j'ai fermé la porte du garage. Après, je me suis énervé parce qu'il y avait trop. Non, c'est pas ça. Non, il faut cibler très bien pourquoi est-ce qu'on vient à la confession. Et je répète pour la troisième fois, on vient pour confesser les péchés et pour avoir des solutions pour ce qui manque. Il y a encore une chose que je voudrais vous dire. Il faut apprendre donc à se confesser. Vous avez à la disposition, par exemple, des guides des confessions. Je ne suis pas trop pour utiliser les guides des confessions, où il y a beaucoup de péchés catégorisés, mais sur des listes comme ça. Je ne suis pas trop d'accord. Pourquoi ? Bon, c'est une option personnelle, ça. Parce que je sens que chacun, il connaît très bien qu'est-ce qui se passe dans son âme. Il y a des choses très claires pour chacun. Il y a des endroits très spécifiques où quelque chose, ça ne va pas très bien. Et là, je crois qu'il faut aller directement quand on vient à la confession. Père, ça, ça ne va pas. Je ne sais pas, c'est l'orgueil, c'est des choses corporelles. Il y a des choses très claires. Chacun connaît très bien son âme. Si vous restez un peu dans le jour qui précède la confession, si vous restez 10 minutes en vous-même et vous regardez un peu en vous-même, vous allez voir que vous commencez à vous connaître très bien. Et vous allez voir que vous allez commencer à dire, voilà, ça ne va pas. Et vous venez au prêtre pas avec des listes, je ne sais pas, à copier après l'internet ou après quelques livres. Non, vous venez avec vos choses. Et après, bien sûr, je peux vous conseiller de lire les listes de péchés pour peut-être il y a des choses que vous ne savez pas que c'est un péché. Comme ça, on apprend. Voilà, quelqu'un peut-être ne sait pas que voilà, l'avortement, ce n'est pas un péché. Elle vient très, très contente à la confession en disant, voilà, je t'ai fait. Non, on apprend c'est quoi un péché. Mais en même temps, on vient avec nos péchés, avec ceux qui, en vérité, nous fait du mal. Voilà comme la confession, c'est un autre baptême. Voilà comme la confession, c'est une relation entre celui qui vient se confesser et le Christ, parmi le prêtre. Pourquoi ? Pour trouver la joie d'être un nouveau-né. Après chaque confession, je ne sais pas si vous avez senti dans vos confessions, je sens chaque fois quand je me confesse, je sens une joie, je sens une liberté, je sens quelque chose, je suis libre. Il y a une chose que je ne peux pas expliquer, et c'est une joie, effectivement, après la confession. Je suis effectivement libre. Libre. Et j'ai eu un choc, si vous voulez, quand je me suis confessé une fois chez mon père spirituel, qui, d'habitude, on avait un peu l'habitude de discuter autour de nos problèmes. Mais une fois, il ne m'a rien dit. J'ai dit tout ce que j'avais dit. Il m'a dit, voilà, ça va. J'étais un peu choqué parce que je m'attendais qu'il me dise, qu'il me fait la psychologie, il me dit des conseils comme ça. Non. Et je me suis senti très bien. Pourquoi? Parce que j'ai mis, moi et lui aussi, on a mis sur le premier plan, on a mis le Christ. Et quand on cherche dans la prière la solution, vous allez voir que beaucoup de choses vont être résolues dans vos vies. Je m'arrête ici, donc, avec encore une autre remarque. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la liaison entre la confession et la communion? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi le rapport? Il faut se confesser chaque fois avant la communion. Il faut se confesser 4 fois par an. Il ne faut pas communier si on ne se confesse pas. Il y a beaucoup de questions qu'on peut poser. À mon avis, je crois qu'il n'y a pas de recette. Je crois que chacun d'entre vous a son relation avec son père spirituel. Et dans cette relation, les choses vont s'arranger très bien. Il n'y a pas de recette. Je ne peux pas vous dire, voilà, ceux qui ne se confessent pas, ils ne peuvent jamais communier. Non. Si vous avez un père spirituel et si vous réglez cette question avec votre père spirituel, c'est une question qui tient de chacun d'entre vous et de votre relation avec le père spirituel. Il y a, par exemple, des cas où le prêtre peut donner la bénédiction pour quelqu'un pour qu'il communie plusieurs dimanches sans se confesser. Il y a des autres cas quand, je ne sais pas, il y a des situations qui imposent une confession fréquente. Quand le prêtre peut dire à celui qui se confesse de venir se confesser plus souvent pour qu'on voit un peu comment ça marche. Parce que quand même, on ne peut pas s'approcher de la communion dans un état qui n'est pas comme il faut. Bon, c'est vrai que jamais on sera comme il faut devant le Christ. Mais quand même, on doit avoir l'intention de faire un peu de nettoyage en nous-mêmes. Quand vous recevrez quelqu'un chez vous, un ami ou les parents, ou je ne sais pas quoi, vous faites un peu de nettoyage dans votre maison. Quand vous venez devant le Christ, il faut avoir au moins l'intention de faire un peu de nettoyage, parce que sinon, ça, le Christ, il nous attend tous. Ça, c'est vrai, il se donne pour tout le monde. Et l'idéal dans l'Église, c'est que tout le monde communie à la liturgie. Mais en même temps, je me demande, on vient communier, mais on vient en se posant au moins des questions. Voilà, comment est-ce que je viens devant le Christ? Comment est-ce que je communie devant le Christ? Comment est-ce que la confession m'aide pour voir autrement la communion? Bon, je m'arrête ici. Si vous avez des questions sur la confession, sur la communion, sur le rapport entre tout ça, je vous conseille de m'envoyer des questions sur mon adresse d'email. Et on peut essayer d'avoir un dialogue qui pourra vous éclairer beaucoup sur beaucoup de choses. Je vous conseille aussi de lire l'Évangile d'aujourd'hui qui se trouve dans le 14e chapitre de l'Évangile selon saint Matthieu. Je répète, 14e chapitre. Et aussi l'apôtre qui a été lu aujourd'hui. Je ne me souviens pas très bien, mais c'était quoi Alexandre? Bon, en tout cas, vous allez trouver dans le calendrier, c'est marqué l'épître vers Éphésiens ou Corinthiens. C'est un épître très beau, c'est un fragment très beau où l'apôtre Paul conseille voilà, c'est le premier épître de saint Paul aux Corinthiens, chapitre 1. Frères, je vous exhorte et tous même sentiment. Qu'il n'y ait point parmi vous de division. Soyez étroitement unis dans le même esprit et dans la même pensée. Voilà, c'est un conseil qui peut être très actuel pour chacun d'entre nous. Qu'il n'y ait point parmi vous de division. Que Dieu nous bénisse. Amen.